France Culture, il est 16h. Tout de suite, la marche des sciences, Aurélie Luneau.
C'est très difficile d'être à la fois scientifique et littéraire. Eh bien, faites de l'histoire des sciences et vous serez les deux.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière émission de la marche des sciences.
Hélas, dans toutes les universités du monde, pas seulement en France, on sépare soigneusement deux populations, les scientifiques d'un côté et les littéraires de l'autre. Et c'est très très dommageable parce que, à des faits, les scientifiques sont très pointus dans leurs spécialités respectives, mais ils sont le plus souvent ignorants de la culture. Et d'autre part, les gens cultivés sont complètement ignorants de la science et ça donne au milieu une sorte d'écart impossible. Or, en effet, aujourd'hui, si vous voulez être humaniste, c'est-à-dire si vous voulez comprendre le monde contemporain, vous ne pouvez pas faire l'économie des sciences.
Comme le disait Michel Serres à notre micro le 4 décembre 2014, aujourd'hui, pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, nous ne pouvons pas faire l'économie des sciences et de leur histoire. Car le passé éclaire l'avenir, le scientifique ne vit plus dans sa tour d'ivoire et plus que jamais le fossé traditionnel entre science et lettres, qui perdure malgré tout encore aujourd'hui en France, devrait être aboli. Des hommes et des femmes œuvrent dans ce sens, dans leur univers respectif, tentent de montrer l'importance qu'il y a à s'enrichir des sciences et de leurs récits, pour être des citoyens humanistes, acteurs du monde et de son devenir. Parmi eux, nos trois invités, avec nous, en direct sur France Culture, Stella Baruc, professeure de mathématiques et chercheuse en pédagogie, et dont le dernier livre s'intitule « Les chiffres, même pas peur », un livre paru aux presses universitaires de France, Gilles Boeuf, ancien président du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, conseiller scientifique pour l'environnement, la biodiversité et le climat au cabinet de la ministre Ségolène Royal et auteur du livre « La biodiversité de l'océan à la cité », leçon inaugurale du Collège de France édité par Fayard, et Pierre Léna, astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'Université Paris Diderot, président d'honneur de la Fondation de coopération scientifique La main à la pâte et auteur du livre « Enseigner, c'est espérer », plaidoyer pour l'école de demain, un livre paru aux éditions du Pommier. Une émission émaillée d'archives de la marche des sciences, des extraits grâce au patient travail d'Anaïs Morales et avec nous aussi le comédien Philippe Laudenbach, la marche des sciences, l'histoire des sciences en marche.
La plus belle expérience que nous puissions faire, disait Einstein, est celle du mystère, la source de tout véritable art et de toute véritable science. La science, comme les arts, comme la philosophie, est une partie de la culture. Elle nous permet de comprendre, en plus de ressentir, de croiser les regards, d'élargir les focales par lesquelles nous percevons la richesse de la réalité. La science va en se raturant, disait Victor Hugo. La science cherche le mouvement perpétuel, ajoutait-il. Elle l'a trouvé, c'est elle-même. Et l'histoire des sciences, comme l'histoire de toutes les aventures humaines, nous permet de découvrir non seulement les extraordinaires découvertes, mais le processus même qui permet de les faire émerger.
Bonjour, Stella Baruc.
Bonjour, Aurélie.
Bonjour, Pierre Léna.
Bonjour.
Et bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour.
Alors je suis ravie de vous compter parmi nous pour cette dernière émission, la 316e depuis 7 ans, au cœur de l'histoire des sciences. Et nous venons d'entendre dans ce début d'émission deux messages, l'un délivré par Michel Serres et puis l'autre délivré il y a quelques jours par Jean-Claude Amezen. La science et l'histoire des sciences, une culture nécessaire aux citoyens aujourd'hui. Pierre Léna.
Comment ne pas être d'accord avec ce mot répété par Michel et Jean-Claude, comprendre. La science, c'est comprendre le monde. Et pour beaucoup de nos concitoyens, c'est avant tout apprendre des choses qu'ils ne comprennent pas.
Stella Baruc, Gilles Boeuf, une réaction peut-être d'emblée?
Le rôle du scientifique, c'est de comprendre des choses extrêmement compliquées. et de les redonner au public très bien digérés, très faciles d'accès, compréhensibles par tous. Je crois que ce rôle-là est un rôle vital, tout aussi que, important que le rôle de faire de la recherche fondamentale, de faire des découvertes. Comment est-ce qu'on les transmet de façon simple? Et pour bien les transmettre de façon simple, il faut très bien les avoir comprises soi-même.
C'était la Baruch, c'est la question du langage alors que l'on utilise aussi.
C'est-à-dire que la question des mathématiques a un rôle un peu particulier. Il se trouve que les sciences ne peuvent pas s'en passer, mais qu'elles ont aussi un rôle absolument singulier et spécifique par elles-mêmes. Donc, voilà, c'est cette extraordinaire efficacité dont on parle pour les mathématiques qui permet de prévoir un certain nombre d'utilisations qui, au moment où elles sont inventées en mathématiques, dont on se dirait qu'elles sont à des lieux de pouvoir servir à quelque chose.
Alors, un besoin de culture scientifique, hein, plus que jamais, mais avec le sentiment quand même, hein, qu'il faut encore du temps, peut-être, pour convaincre. En ce sens, c'est qu'il faudra mener quelques combats pour atteindre l'objectif, des combats d'une vie, parfois. Je vous propose d'écouter le témoignage de Christian De Duve. C'était le 28 mars 2013. Je rappelle pour les auditeurs qu'il était biochimiste et qu'il avait reçu le prix Nobel de médecine en 1974. Et c'était un mois avant sa disparition.
Toute ma vie, j'ai défendu la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche qui vise à comprendre. Je défends la thèse que essayer de comprendre la nature du monde, sa propre nature, ça fait partie de la culture. Au même titre que la philosophie, que les arts, la littérature. Je crois que la recherche scientifique est une dimension importante de la culture humaine.
Cette notion de la science, hein, c'est la découverte et la compréhension de la nature par l'esprit humain. Pierre Léna.
Oui, et puis le partage d'une formidable aventure qui a commencé dès que l'homme a su penser, bien longtemps avant qu'il ne sache écrire ou compter. Et cette aventure nous a hissés progressivement de plus en plus loin dans la compréhension de la vérité du monde. Mais c'est une aventure magnifique et donc qu'il faut partager avec tous parce qu'elle est l'histoire même de l'humanité.
Alors il y a un mot que vous avez relevé comme ça dans les propos de Michel Serres et de Jean-Claude Amezen, c'est le mot comprendre. Mais il y en a un autre aussi, Pierre Léna, que vous utilisez beaucoup. Il faut apprendre à raisonner. Raisonner, quelles que soient les sciences, hein, les mathématiques, les sciences de la nature, la biologie, la géologie. Ça, c'est un maître mot.
Les sciences sont faites d'un étrange mélange que chacun peut expérimenter en lui-même et que les scientifiques vivent tous les jours dans leur travail, dans leur laboratoire. Mélange entre l'imagination la plus débridée. Imaginer des choses, des situations, des processus internes aux étoiles, aux cellules, aux molécules, hein, dont tout laisse penser qu'ils sont contraires au sens commun, à l'imagination. Et puis d'un autre côté, soumettre cette imagination à la sanction de l'expérience, de la réalité, et voir si dans tous nos fantasmes, en quelque sorte, certains correspondent à la réalité des choses. Et c'est quand cette articulation se révèle que l'on peut dire « Ah, j'ai fait progresser la vérité ».
C'était la Baruch. Raisonner, c'est valable aussi, bien sûr, et plus que jamais pour les mathématiques, hein, penser et raisonner.
Oui, il y a cette fameuse, sinon querelle, du moins discussion entre Condillac et justement des études de Tracy, qui discutent du fait que calculer, c'est raisonner. Mais raisonner n'est pas forcément calculer. Et ça me paraît extrêmement intéressant, comme justement rapport à la complexité. C'est quoi raisonner? C'est que mettons en jeu? Et là, moi, j'ai découvert un monde, hein, avec les amours de Stendhal pour Condillac et des études de Tracy. C'est fabuleux. Condillac disait, la première chose que fait un individu spontanément, c'est de se servir de ses bras. Et c'est seulement après qu'il pense à les prolonger par un instrument. Et puis, en effet, de se demander quelle est l'efficacité de l'instrument en question. Et puis, de l'améliorer. Et puis. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui, au départ, est un rapport, en effet, à l'extérieur, à la nature, au monde, qui fait que l'homme cherchera à l'améliorer sans arrêt par la science et le raisonnement.
Mais alors, on a le sentiment que finalement, raisonner, penser, ça a été enseigné et que ça ne l'est plus forcément. Est-ce que je me trompe ? Est-ce qu'il y a vraiment un problème qui ressort de la pédagogie par rapport, même, allez, allons-y, à la désaffection qui touche les sciences en France ?
Il y a quelques Karina. Années, je disais au ministre de l'Éducation nationale, c'était Luc Chatel à l'époque, vous répétez vous-même et vos prédécesseurs que l'essentiel de l'école primaire, en tout cas, c'est lire, écrire, compter. Nos enfants qui vont vivre au 21e siècle, il faut qu'ils comprennent le monde. Et pour ça, il faut qu'ils raisonnent. C'est-à-dire dans tous les fantasmes de leur imagination qu'ils appliquent cette qualité de raisonnement. Donc, vous devriez dire, monsieur le ministre, lire, écrire, compter, raisonner sont les quatre objectifs de l'école. Et le ministre a repris cela en public, dans une conférence de presse. Il avait entendu.
Mais alors, il avait entendu, mais au-delà des mots, est-ce que ça a été appliqué, Stella Baruc?
Une autre affaire.
Oui. Je ne sais pas si Pierre Léna va être content, mais moi, c'était plutôt le contraire. C'était raccourcir la devise républicaine, à savoir lire-écrire. Un lire-écrire qui s'appliquerait à tout ce que, déjà, l'humanité a produit comme savoir. Donc, un savoir qui serait scientifique, qui serait mathématique, qui serait littéraire, qui serait tout ce qu'on voudra. Et donc, au fondement de tout ça, il y a qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Le sens. Comment y parvient-on ? Comment y parvient-on ? Comment le transmet-on ? À partir de quoi ? Voilà. Donc, un lire, écrire, compter. Compter a fait énormément de mal, si je puis dire, à notre façon d'enseigner les premiers rudiments. Parce qu'effectivement, compter 7 plus 5, ça fait 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne pas avoir des images mentales, des raccourcis, des visions de ces nombres, eh bien, c'est compter. Et c'est ce qu'il faut essayer de corriger, parce que quand on compte, on ne raisonne pas.
Et oui, c'est effectivement ce constat hein, que l'on fait assez paradoxal. C'est-à-dire qu'en France, par exemple, on a deux écoles françaises. Hein, on dit souvent, il y a l'école française des médailles Fields, où la France fait partie des pays les plus titrés. Et puis d'un autre côté, l'échec de la France, avec cet enseignement des sciences, dans le classement établi par l'OCDE. La France se retrouve au 18e rang, hein, ça doit toujours être valable, j'imagine, sur 34 pays. Allez, prenons-en la mesure tout de suite, Stella Baruc, par rapport à ce que vous disiez, lire et écrire, compter, comprendre, et en tout cas ce problème peut-être du langage. Vous nous avez fait une petite sélection de textes. Donc, on va plonger dans le premier. Philippe Laudenbach va prêter sa voix à Stendhal. Vie de Henri Brulard.
Mon enthousiasme pour les mathématiques avait peut-être eu pour base principale mon horreur de l'hypocrisie. Suivant moi, l'hypocrisie était impossible en mathématiques. Et dans ma simplicité juvénile, je pensais qu'il en était ainsi dans toutes les sciences où j'avais ouï dire qu'elles s'appliquaient. Que devins-je quand je m'aperçus que personne ne pouvait m'expliquer comment il se faisait que moins par moins donne plus. Monsieur Chabert, pressé par moi, s'embarrassait, répétait sa leçon, celle précisément contre laquelle je faisais des objections, et finissait par avoir l'air de me dire « Mais c'est l'usage, tout le monde admet cette explication. Euler et Lagrange, qui apparemment valaient autant que vous, l'ont bien admise. Nous savons que vous avez beaucoup d'esprit. »
Mais, alors, c'était, si je puis dire, une forte tête, Stendhal, Henri Bell. Donc, il s'agit là des écoles centrales qui ont été créées en 1795. Et entre 96 et 99, il sera l'élève de ces écoles centrales qui remplaçaient donc les collèges. Et alors, voilà, il ne supportait pas d'appliquer une règle sans en comprendre le sens. Or, il se trouve que tout le monde était bien embarrassé pour lui donner le sens de cette règle. Comment expliquer que moins par moins, ça fait plus ? Pierre Léna, c'est pas plus facile aujourd'hui qu'au temps de Stendhal. Et ça n'est pas si clair que ça, parce que c'est ce qu'il dit. Il dit, les explications qu'on me donnait ne montraient que l'embarras. Donc, imaginons que nous allions chercher ça dans l'encyclopédie de D'Alembert.
Alors, allons-y pour D'Alembert.
Il faut avouer qu'il n'est pas facile de fixer l'idée des quantités négatives. et que quelques habiles gens ont même contribué à l'embrouiller par les notions peu exactes qu'ils en ont données. Dire que la quantité négative est au-dessous du rien, c'est avancer une chose qui ne se peut pas concevoir. Il n'y a donc point réellement et absolument de quantité négative isolée. Moins 3, pris abstraitement, ne présente à l'esprit aucune idée. Mais si je dis qu'un homme a donné à un autre moins 3 écus, cela veut dire, en langage intelligible, qu'il lui a ôté 3 écus.
C'était en langage intelligible, c'est peut-être beaucoup dire, mais c'était la façon classique de présenter les nombres négatifs. Les moins que rien, Descartes s'exprime comme ça. Bon, D'Alembert dit qu'il n'en est rien, si j'ose dire, mais il a beaucoup de mal à expliquer ce moins par moins à son tour qu'il n'explique pas. Et Euler, le grand Euler. Eh bien, le grand Euler, dans une algèbre magnifique qui est parue en 1770 et qu'il a dicté, il était déjà aveugle, à un jeune homme dont on raconte qu'il ne savait rien des mathématiques et que à la fin de l'écriture de ce livre, puisqu'il écrivait sous la dictée, eh bien, il avait tout compris, il savait faire tous les problèmes. Eh bien, dans cette algèbre-là, non seulement il reprend l'idée, l'interprétation d'un nombre négatif comme une dette, mais il zappe complètement l'explication en disant que finalement, moins A par moins B, ça ne peut faire que plus. Donc, on ne peut pas dire que ce soit toujours extrêmement clair. Mais bon, donc, il y a des gens qui l'acceptent, mais pas notre Stendhal, notre Henri Bell, avec ce qu'on appelle sa manie résonante.
Supposons que les qualités, quantités négatives, sont les dettes d'un homme. Comment, en multipliant 10 000 francs de dette par 500 francs de dette, cet homme-là, où parviendra-t-il à avoir une fortune de 5 millions ?
Oui, comment en effet ? Comment, en multipliant une dette par une dette, on va avoir un capital ? Eh bien, le grand Euler, toujours, ne se prive pas de multiplier de l'argent par de l'argent. Et c'est ce qui a été reproché à Stendhal par des Stendhaliens fanatiques. Mais comment a-t-il pu faire une chose pareille ? Eh bien, la solution, elle nous est donnée plus d'un siècle avant par un merveilleux mathématicien qui s'appelle Albert Girard et qui, en 1629, disait déjà « Pour résoudre une question, il la faut remettre en question de nombres abstraits, sans parler, si on peut, de matière, d'écus, de pieds. » Et voilà pourquoi je demande que dès le CP, eh bien, on distingue pour les enfants un nombre d'une quantité, c'est-à-dire un nombre de ce qu'on appelle un nombre de.
Pierre Lénard, est-ce que vient de dire et de jouer Stella Baruch avec Philippe Laudenbach hein, dans un duo en tout cas magnifique, ça rejoint véritablement ce travail que vous avez mené vous sur le terrain aussi avec la main à la pâte. C'est quand même essayer de comprendre pourquoi, quand je parlais de désaffection des sciences, c'est vrai que on peut dire que tout se joue dans l'enfance, tout se joue au primaire, voire peut-être même avant, hein, et que c'est là qu'il faut peut-être établir une véritable langue, comprendre tout simplement pourquoi les enfants sont en difficulté. Ils ne sont pas forcément en difficulté, il faut juste se demander pourquoi ils n'ont pas compris ce qu'on attendait qu'ils comprennent, hein. C'est ce que Stella Baruch a mis en avant. Arrêtons peut-être de parler des échecs des élèves, de dyscalculie, d'innumérisme. Est-ce que ce n'est pas tout simplement la façon dont on leur présente ces matières scientifiques ?
Quand il y a 21 ans maintenant, nous avons avec Jean Charpak, qui nous a quittés en 2010, et Yves Carré, qui continue avec moi ce travail, lancé la main à la pâte à l'Académie des sciences, et puis avec le ministère, et puis d'innombrables enseignants, instituteurs, qui nous écoutent peut-être aujourd'hui, et qui ont fait un travail absolument extraordinaire. Nous avons voulu nous éloigner des mathématiques. Parce que, pour beaucoup, les sciences étaient les mathématiques. Alors que nous voulions mettre en avant ce rapport au monde, comprendre le monde qui était évoqué au début de cette émission. Et le monde, ce sont les choses, les objets, les phénomènes, la lumière, la matière, vivante ou inanimée. Et donc, nous voulions créer un rapport d'abord de regard, d'observation des enfants. Ensuite, une capacité de dire ce qu'ils voyaient avec les beaux mots de la langue, lire et écrire, comme vous le souhaitiez tout à l'heure. et ensuite de raisonner sur ce qu'il voyait, avec ce qui est tout naturel pour un enfant, la question « Pourquoi ?» Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi les pierres tombent? Pourquoi la terre tourne? Pourquoi les étoiles brillent? Pourquoi la nuit est noire? Pourquoi les enfants sont pleins de ces questions? Et donc, parcourir avec eux les questions sans leur dire « voilà la réponse, c'est moi qui la possède, tu n'es qu'un ignorant ». Mais en leur disant « imagine et raisonne ». Imagine, parce qu'en toi, il y a cette capacité immémoriale de l'homme de faire des hypothèses, d'imaginer des raisons, certaines tout à fait farfelues, et d'autres d'une merveilleuse créativité. On est toujours étonné de la capacité d'invention de l'enfant, qui rejoint cette longue histoire de l'humanité que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, raisonne. Est-ce que toutes les hypothèses que tu as formulées tiennent la route? Est-ce que tu peux imaginer des tests qui vont valider certaines et infirmer d'autres? Et voilà, c'est ce chemin-là que nous avons voulu parcourir, d'abord avec les classes françaises, et nous continuons à le faire, et puis maintenant dans le monde entier, avec toutes sortes de pays, car au fond, s'il y a bien deux universalités, c'est celle de la musique et c'est celle de la science. Les pierres tombent, le soleil brille, les fleurs poussent de la même manière, partout dans sur notre planète.
Donc cette pédagogie, en tout cas fondée sur l'investigation, la découverte, l'imagination, l'expression que vous avez et le raisonnement que vous avez donc lancé dès 96, et d'abord pour les écoles primaires, ensuite le collège et je pense que le lycée étant
non, s'arrête au collège.
C'est vrai. En tout cas, c'était dans votre ambition.
Non, jamais vraiment, parce que l'école primaire et le collège, c'est le bain commun de tous les enfants de France, où ils apprennent tous la même chose avec les mêmes programmes. Et c'est une machine merveilleuse de transmission de savoir et de partage, mais qui a quand même un résultat d'une ségrégation terrible en sortant du collège. Et cette ségrégation est inacceptable. Elle crée l'inégalité, elle crée parfois la violence, elle crée le désespoir chez certains jeunes, elle crée les orientations ratées, comme on le sait aussi, ou subies, ou forcées parfois. Et donc, nous voulions doter cette tranche d'âge, qui va en gros jusqu'à 16 ans, de la capacité qu'apporte la science. Donc, nous avons dit, le lycée, c'est plus tard, c'est autre chose, c'est des voies différentes. Ce qu'il faut réussir, c'est les fondements, les bases. Il faut établir tous ces jeunes, garçons et filles, et nous avons un accent toujours sur les filles, il faut les établir dans un bien-être de bonheur avec la science.
Oui, les filles, parce qu'on sent qu'elles sont tout à fait dans cette capacité d'investir les sciences, Gilles Boeuf. Et en même temps, après le bac, souvent, elles ne vont pas vers les grandes écoles où elles ne font pas ces choix-là, à l'inverse des garçons. Alors, je vous propose d'écouter un autre extrait de la Marche des sciences du 27 janvier 2011. Cette fois-ci, c'était un grand portrait que nous avions consacré à Claudie Aigneré.
Je crois qu'il y a des résultats scientifiques, des vérités, des doutes, et il y a aussi les hommes et les femmes qui la font, cette science, qui la racontent. Et puis, il y a l'histoire de ces sciences que j'ai tant de plaisir aussi à pouvoir transmettre. On est dans la transmission, le partage. On peut plus imposer les choses aujourd'hui, dans cette période de doute et de cette période d'accélération. Il faut non seulement le transmettre, mais il faut le partager. Il y a des créations, des productions, des nouveaux savoirs qui apparaissent très très vite. Comment s'y retrouver dans ce dédale si on n'est pas accompagné, si on n'est pas éduqué, si on n'a pas appris à apprendre à raisonner? Tout ça sont des éléments importants. Donc, oui, faut sûrement, je l'ai dit aussi, réconcilier les sciences avec notre culture générale. Donner tome du 21e siècle.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Gilles Boeuf, partager, raisonner, comme le disait Claudie Aigneré. Alors c'est vrai qu'elle a mis des choses en place aussi en étant à la tête d'Univers Sciences. Vous-même, au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, vous avez aussi ce souci-là, vous avez eu en tout cas quand vous étiez président, de faire entrer alors à la fois les plus jeunes et puis aussi de sensibiliser les citoyens adultes qui n'avaient pas été forcément dans leur parcours.
Bien sûr, tout le monde. On dit l'humain, animal doué de raison. Quand Carl von Linné, ce botaniste suédois, décrit l'humain, on est en 1758, il l'appelle Homo sapiens. On m'a toujours fait réfléchir parce que on avait déjà appelé des espèces Horribilis, Horridus, Atrox, Ferox. Et nous, nous-mêmes, nous appelons sapiens. Je me dis, si quelqu'un à l'extérieur avait regardé le système en regardant les relations entre les humains, entre eux, hommes et femmes, par exemple, mm-hmm. ou humains et non-humains, je doute que le premier adjectif qui me vienne à l'esprit, ce soit sapiens, bien entendu. D'ailleurs, Edgar Morin disait encore récemment, homo faber certainement, homo démence beaucoup, sapiens pas encore du tout. Alors, c'est un grand défi que nous lançons. Je le dis souvent, je crois que le vrai défi, c'est d'arriver à être vraiment sapiens au cours du XXIe siècle. Tout à l'heure, effectivement, on parlait de la raison. Moi, je travaille avec des gens du muséum sur des chimpanzés dans la nature en Ouganda, sur des gorilles de montagne. Ils raisonnent. Hein, alors, la différence, c'est que je vois un chimpanzé qui va passer 20 minutes à se préparer un petit objet pour attraper la termite qu'il veut attraper dans tel endroit de la circonvolution du trou dans lequel il est dans son arbre. Il le fait, il mange sa termite et il s'en va en laissant son outil. Je lui crie, mais ramasse-le!
Garde-le!
Comment faisaient les humains au début avec ces bifaces merveilleusement travaillées qu'on se gardait de génération en génération? Et c'est là effectivement que sur la réflexion globale de ce qu'est l'humain, l'humain qui est profondément animal dans sa physiologie, c'est absolument évident. Je dis souvent à mes étudiants, mais pourquoi est-ce que vous avez du sodium dans votre sang et puis des chlorures? Ça, c'est l'océan ancestral, des éléments apparus dans le tableau de Mendeleïev il y a 12 milliards d'années, au moment, tout à l'heure, on évoquait le Big Bang. Et c'est ça l'autre défi aujourd'hui, je pense, et vis-à-vis des enfants, c'est expliquer qu'on n'est surtout pas un humain ici et une nature à côté. Science de la matière, science de la nature, pour moi, c'est fondamental. Mon premier message, quand je fais mes conférences, c'est de passer un bon tiers du temps à dire aux gens, nous sommes profondément dedans. Et j'aimerais démarrer sur une image, c'est votre lit ce matin. Un lit humain, qu'on ait dormi tout seul ou à deux, ça marche très bien. Que les doigts, les draps propres ou pas propres, ça marche très bien. C'est 1,5 million d'acariens par lit. Et l'acarien, au sens de ce qui est beau et moche pour l'humain, c'est pas terrible, c'est pas d'épines et de poils. Et je montre cette image. Et je me rappelle une jeune femme qui avait un bébé, qui me disait, mais j'ai un bébé, mais c'est pas possible que ce soit comme ça dans le lit de mon bébé. J'ai écouté, madame, c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il va devenir ce qu'il est. Et aujourd'hui qu'on a travaillé sur ces êtres vivants qui accompagnent un corps humain, c'est au moins 10 fois plus de bactéries dedans et dessus que de cellules humaines. Et un bébé humain à la naissance, c'est 3/4 d'eau. Donc vous voyez que si on tenait compte de ce fait qu'on est fait en grande partie de bactéries et d'eau, ça nous relierait à ce monde qui nous entoure de la matière et de la vie. C'est la première chose à faire, c'est comprendre cela. Et comprendre à ce moment que dès le moment où nous sommes faits du même, on vient du même moule. Chaque fois qu'on agresse cette nature, on s'agresse soi-même. Et c'est constamment cette, j'ai deux défauts terribles de l'humanité, l'arrogance. Et je vais revenir à Linné pour vous montrer comment c'était à l'époque. Linné donc invente cette classification des espèces vivantes. Lorsqu'il meurt en 1578, on en a 12 000. On connaît 2 millions aujourd'hui. Il dira, Dieu a créé, Linné a organisé. Cette arrogance-là, je la trouve encore chez des scientifiques aussi encore aujourd'hui. Et c'est surtout masculin, cette arrogance, c'est surtout masculine. Et enfin, c'est la cupidité qui malheureusement est aussi masculine que féminine. Mais si on arrive à combattre ces deux défauts-là, je pense qu'on peut améliorer la situation. Mais on a besoin des sciences pour ça, bien sûr.
On a besoin des sciences, on a besoin des enseignants, on a besoin de la formation, on a besoin, alors peut-être dans ce socle commun là nommé de cette façon-là en 2005, regard sur les programmes et les fameuses compétences à maîtriser. Ça sous-entend, hein, Pierre Léna aussi, que dans la formation des enseignants, il faut peut-être les sensibiliser à ça aussi, à cette, ne serait-ce que cette histoire des sciences là, dans laquelle vous nous faites plonger les uns les autres pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui. On sent bien que c'est nécessaire.
Oui, c'est très important de voir que on est inscrit dans une longue histoire et que cette histoire des sciences, l'électricité, la lumière, l'atome, la cellule, on peut dérouler tous ces termes qui font partie aujourd'hui du vocabulaire commun. Elle est une longue et difficile aventure marquée de détours, d'erreurs, de controverses, d'arrogance parfois extrême et qui ont déclenché à un moment le pas vers plus de vérité. Et c'est extraordinairement pédagogique, parce que si j'entends cette histoire et que je me place dedans, je comprends que je ne comprenne pas. Je comprends que mes pas aillent droite, à gauche et pas en avant tout de suite. Je ne m'énerve pas. Je me dis que je suis un maillon. Et donc, je suis content d'être ce maillon. Et pour reprendre les mots de Bernard de Chartres, au XIIe siècle, nous sommes des nains, mais nous voyons loin parce que nous sommes sur les épaules des géants qui nous ont précédés. Oui, cette phrase que Newton a reprise ensuite. Oui. Donc cet enseignement de l'histoire est très important. Et puis, Gilles a parlé d'arrogance. Est-ce que nous autres scientifiques ne sommes parfois pas arrogant comme propriétaire de notre savoir. Tu ne peux pas comprendre. Il y a sur nos écrans en ce moment un film qui parle de biologie et de petits animaux vivant en Antarctique que je trouve terrifiant dans l'image de la science qu'il propose. Parce que c'est incompréhensible et c'est arrogant. Et c'est justement ça que devant un enfant, nous ne devons pas être. Nous devons lui dire, regarde l'ombre d'un bâton qui tourne dans la cour de récréation au soleil. Eh bien, tu vas comprendre qu'avec ça, il y a 25 siècles, un Grec a mesuré la Terre. Et toi, tu peux le faire aussi.
Quel est le film en question, vous vous souvenez ou, vous pouvez le citer, le film en question dont vous venez de nous parler?
Oh, ça s'appelle, ça a quelque chose à voir avec la banquise, je ne veux pas dire du mal du réalisateur. Mais je trouve que c'est une tellement mauvaise image de la science et des scientifiques.
Alors peut-être qu'en tout cas, cette bonne image de la science et des scientifiques et que l'on peut acquérir dans l'enfance passe aussi par juste les histoires. Les histoires, justement, c'est Michel Serres qui nous en parle et Jules Verne.
C'était la guerre, et on ne pouvait pas voyager. Et par conséquent, la seule manière de voyager, c'était de lire les voyages extraordinaires de Jules Verne. Et alors, ces voyages extraordinaires avaient trois avantages. Premièrement, on passait par tous les pays du monde. On passait aussi bien en Carélie qu'au Japon, que dans l'océan Pacifique. Qu'est-ce que j'ai voyagé à cette époque-là? C'était formidable. Mais surtout, on voyageait dans toutes les sciences. Parce qu'il y avait la géographie, il y avait l'histoire, mais il y avait aussi l'astronomie, puisqu'on est dans la Lune, comme vous le disiez tout à l'heure. Il y avait la biologie, il y avait etc. Alors évidemment, ce n'était pas des sciences up-to-date, ce n'est pas tout à fait aujourd'hui. Mais enfin bon, on avait ce double voyage, à la fois dans le monde et dans les sciences. C'est déjà un bon programme pour le philosophe, c'est-à-dire voyager dans le monde et voyager dans le savoir.
En l'année 1872, la maison portant le numéro 7 de Savile Row, Burlington Gardens, maison dans laquelle Sheridan mourut en 1814, était habitée par Phileas Fogg, Esquire, l'un des membres les plus singuliers et les plus remarqués du Reform Club de Londres. Bien qu'il semblât prendre à tâche de ne rien faire qui pût attirer l'attention. À l'un des plus grands orateurs qui honore l'Angleterre succédait donc ce Phileas Fogg, personnage énigmatique dont on ne savait rien sinon que c'était un fort galant homme et l'un des plus beaux gentlemen de la haute société anglaise. On disait qu'il ressemblait à Byron, par la tête, car il était irréprochable quant aux pieds, mais un Byron à moustache et à favoris, un Byron impassible qui aurait vécu 1000 ans sans vieillir. Anglais, à coup sûr, Phileas Fogg n'était peut-être pas londonneur. On ne l'avait jamais vu ni à la bourse, ni à la banque, ni dans aucun comptoir de la cité. Ni les bassins, ni les docks de Londres n'avaient jamais reçu un navire ayant pour armateur Phileas Fogg. Ce gentleman ne figurait dans aucun comité d'administration. Son nom n'avait jamais retenti dans un collège d'avocats, ni au Temple, ni à Lincoln Inn ou à Gray's Inn. Jamais il ne plaida ni à la cour du chancelier, ni au banc de la reine, ni à l'échiquier, ni en cour ecclésiastique. Il n'était ni industriel, ni négociant, ni marchand, ni agriculteur. Il ne faisait partie ni de l'institution royale de la Grande-Bretagne, ni de l'institution de Londres, ni de l'institution des artisans, ni de l'institution Russell, ni de l'institution littéraire de l'Ouest, ni de l'institution du droit, ni de cette institution des arts et des sciences réunies qui est placée sous le patronage direct de Sa Gracieuse Majesté. Il n'appartenait enfin à aucune des nombreuses sociétés qui pullulent dans la capitale de l'Angleterre, depuis la Société de l'Harmonica jusqu'à la Société entomologique, fondée principalement dans le but de détruire les insectes nuisibles. Phileas Fogg était membre du Reform Club. Voilà tout.
Baby,
Il est 16h35, vous êtes sur France Culture, suite de la Marche des Sciences en direct, et c'est Badaboum par Hoover Phonic que vous entendez à l'instant, choix d'Alexandra Malka. Et nous sommes en compagnie de nos trois invités phares. Stella Baruc, professeure de mathématiques et chercheuse en pédagogie, et je cite son dernier livre, Les chiffres, même pas peur, paru aux Presses universitaires de France. Gilles Boeuf, ancien président du Muséum d'histoire naturelle de Paris, conseiller scientifique pour l'environnement, la biodiversité et le climat au cabinet du ministre Ségolène Royal. Et puis auteur du livre « La biodiversité de l'océan à la cité », leçon inaugurale du Collège de France édité chez Fayard. Et puis Pierre Léna, astrophysicien, membre de l'Académie des sciences, professeur émérite à l'Université Paris Diderot, président d'honneur de la Fondation La Main à la Pâte hein, et auteur du livre « Enseigner, c'est espérer, plaidoyer pour l'école de demain », un livre édité au Pommier. Et nous sommes ensemble pour débattre de l'éducation à la science et de la place de l'histoire des sciences dans le monde d'aujourd'hui. Alors, on entendait Michel Serres avec son histoire dans l'enfance, effectivement, et son refuge qui était celui des livres, notamment Jules Verne, et puis cet extrait qu'on a entendu, c'était le début du livre Le Tour du Monde en 80 jours, un livre qui avait marqué Michel Serres. Est-ce que vous-même, les uns les autres, vous avez été sensibilisés à la science par des livres, peut-être des histoires, au-delà de l'histoire des sciences? Pierre Léna.
Celle que vous venez de lire, Le Tour du Monde en 80 jours, Jules Verne, éblouissement. Il y a une phrase de Jules Verne dans Michel Strogoff qui a traversé toute ma vie. Michel Strogoff se retrouve prisonnier au-delà du lac Baïkal et on va l'aveugler avec une épée rougie au fer rouge. Et donc l'épée passe sur ses yeux et il est aveugle. En fait, il ne sera pas aveugle. Il va continuer à voir et toute l'intrigue va se dérouler grâce à ce miracle. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un phénomène physique que j'ai découvert beaucoup plus tard, qu'on appelle la caléfaction, que les cuisinières d'autrefois connaissaient bien, parce que quand on versait de l'eau sur une cuisinière en fonte, l'eau se mettait en petites billes et se mettait à rouler sur la cuisinière. Phénomène extraordinaire. La bille étant protégée par une petite couche de vapeur. Et c'est cette vapeur qui avait empêché Michel Strogoff d'être aveugle. Ce récit m'a traversé comme une interrogation, parce que je ne savais pas ce que c'était que la vapeur à 7 ou 8 ans quand j'ai lu ce livre. Et voilà, c'est des questions qui, pour l'enfant, sont des fascinations. J'aurais pu faire autre chose, sans doute, de ma vie que de la science, mais l'enfant a une extraordinaire capacité d'entendre. Et le mot prononcé par les bourreaux de Michel Strogoff, en lui disant « Regarde de tous tes yeux, regarde ». Et ça a été pour moi, au fond, en résonance avec ce drame, très important de me dire « Il faut que je regarde le monde ». Et je suis devenu astronome.
C'était la Baruc, Gilles Boeuf, une histoire aussi? Pas forcément.
La même histoire. C'est-à-dire que je suis ravie d'avoir l'explication d'une des plus grandes émotions que j'ai eues au cinéma. Parce que ça a été tourné en film, et que Michel Strogoff, là, face à son bourreau, qui va lui enfoncer une épée dans les yeux, c'était un moment absolument épouvantable, avec une fin merveilleuse, puisqu'on voyait que... Mais je n'avais jamais compris ce qui s'était passé.
Ah ben tout arrive, c'était la barrière.
Merci Pierre Léna. vous avez dit un mot, je vais l'écrire, ça s'appelle là...
Caléfaction.
Caléfaction.
Comme torréfaction.
En espagnol, caléfaction en espagnol. Là. C'est ça, c'est le
chouette. Extraordinaire.
Super.
Ah oui.
Gilles Boeuf.
Moi, je lisais, la même époque, c'est Fabre qui m'a toujours fasciné quand il racontait les mœurs de la tarentule ou du scorpion du Languedoc.
Henri Fabre.
Moi, j'étais élevé à la pointe bretonne, tout petit. Je passais mon temps à fouiller dans les trous d'eau, les pouliques, comme on dit en breton, à Douarnenez. Et je ramenais tout ce qu'on pouvait élever à la maison. Il y avait des civelles d'anguilles. Découvrir qu'elles venaient de la mer des Sargasses, c'était fascinant. Comment ce petit animal était arrivé là? Avait fait des milliers de kilomètres. Comment il allait se transformer? Pourquoi un jour il aura envie de repartir? Et on se pose ces questions-là.
J'allais dire, on n'a pas encore percé le mystère, hein.
Pas tout. On a des choses sur le saumon, par exemple. J'étais dans un pays où les gens allaient pêcher des saumons. Et c'est vrai que ce saumon était fascinant parce qu'il revenait à une époque précise. Il retrouvait son chemin exactement de là où il était parti 3 ou 4 années auparavant. Donc, et moi, je savais à 8 ans que je serais scientifique et biologiste, hein. J'ai jamais dérogé. Pourtant, mes parents n'étaient pas du tout là-dessus, mais j'avais envie de faire ça. Je me disais, quand je serai grand, je vais travailler sur les venins de serpents. Je ramassais des vipères à l'époque aux grandes dames de ma maman, qui n'était pas toujours très contente quand je les ramenais à la maison. Puis finalement, écoutez, j'ai travaillé sur les migrations des saumons pendant 18 ans. et puis pas sur les venins de serpent, mais je pense que cette passion initiale, elle est là. Alors ensuite, la question, c'est de la transmettre. Et je me rappelle, j'emmenais d'autres enfants du quartier, qui, comme je disais tout à l'heure, n'étaient pas allés forcément aller à l'école. Mais sur le terrain, avec eux, en leur expliquant les choses, ils étaient autant émerveillés que n'importe quel petit enfant. Certains d'ailleurs qui ont mal tourné par la suite, je me disais que si chaque gamin avait quelqu'un pour l'aider justement à essayer de comprendre, à se poser les bonnes questions, ça changerait absolument tout. Et ce qu'on a du mal à faire aujourd'hui avec 7,3 milliards d'humains, parce que la question de cette conscience qu'on évoque, elle est humanitaire, mais planétaire. Et en fait, on oublie beaucoup les autres aujourd'hui. J'ai beaucoup intéressé au vieillissement récemment. Je m'étais amusé à calculer un truc qui était pas très correct. C'est quel était le coût énergétique de Jeanne Calment qui a vécu plus de 120 ans.
Ah oui. C'est monstrueux. Pas correct, hein, c'est vrai.
On peut pas amener 7,3 milliards d'humains avec l'énergie qu'on a à 120 ans. Donc c'est là que...
C'est la mauvaise nouvelle du jour.
C'est pas une mauvaise nouvelle. C'est ça que je combats ces mouvements aujourd'hui dramatiques du transhumanisme ou de choses comme ça qui sont extrêmement inquiétants. Parce que, la question, c'est pas la science que l'on fait, c'est quel usage fait-on ensuite de la science. Il faut qu'on continue à faire rêver les gens, c'est essentiel. On est émerveillé parce que c'est merveilleux. Il faut le faire partager. Ensuite, c'est encore une fois l'humilité et le partage qui font qu'on retrouve plus que ce qu'on faisait auparavant.
Pierre Léna.
Oui, et dans le partage, je rebondis sur ce mot parce que nous sommes en France et en Europe et nous partageons pas si mal dans nos écoles, à la radio, comme vous le faites, tous nos savoirs scientifiques, y compris avec les grands savants actifs sur les saumons, les tarentules. Mais quel partage vis-à-vis des petits Africains? Quel partage dans les favelas du Brésil ou dans les poblaciones de Santiago du Chili? Et cette question me hante, parce qu'elle est en train d'installer dans ce monde globalisé, avec cette universalité de la science, des fractures terribles. Nous allons de l'avant, mais le problème n'est pas que nous vivions tous à 120 ans, c'est que nous mourions à un âge correct, mais que surtout nous ayons partagé avec tous ces enfants-là.
Stella Baruc, vous vouliez réagir?
Oui, je suis un peu en minorité avec mes mathématiques qui pourraient être arrogantes, mais qui ne le sont pas forcément, et qui ne le sont évidemment pas pour les praticiens. Et justement, il y a quand même une spécificité qu'on retrouve chez les enfants, chez les adultes évidemment, c'est celle de l'envie de prendre un papier, un crayon, pour résoudre un problème, pour répondre à une question. Il y a un côté défi dans les mathématiques qui peut absolument être circonscrit à la matière elle-même, indépendamment de ce à quoi ça pourrait servir. Et on a, parmi les grands personnages, que tout le monde connaît bien, mais peut-être vous particulièrement, c'est le comte de Buffon.
Ah, le bœuf acquiesce. Hein.
J'occupe son bureau.
Ah, oh là là. Et en plus,
sur sa table.
Eh bien, le comte de Buffon adorait les mathématiques. Et il a passé beaucoup de temps à s'intéresser à un problème qui était un jeu, le jeu de Franc Carreau. Vous imaginez ce personnage en train de chercher sur le papier quelle était la probabilité pour qu'un écu tombant sur un carreau touche ou un bord, ou deux bords, ou trois bords. Bon, donc les paris. Et il a inventé un problème qu'on appelle maintenant l'aiguille de Buffon, qui consiste à se demander, alors cette fois-ci on a, vous savez, des lattes de plancher qui sont parallèles, et on jette une aiguille. Quelle est la probabilité pour que l'aiguille en question touche, coupe, en effet, une ligne ou ne la coupe pas? Eh bien, figurez-vous qu'il écrit qu'il s'est amusé à la calculer. Il avait bien des choses à faire, n'est-ce pas?
Sûrement.
Il s'est amusé à la calculer. Et en la calculant, qu'est-ce qui apparaît? Le nombre pi. Le nombre pi qui fait que on se demande si en lançant 1000 fois, 10 000 fois, 100 000 fois une aiguille, on obtient combien de décimales qui sont les bonnes décimales. C'est une merveille, ça ne sert à rien, mais c'est magnifique. Ce sont les probabilités géométriques qui étaient là, pour la première fois, mises en évidence, alors qu'en général, c'était toujours la question de l'analyse.
Et alors, quel dommage qu'on n'enseigne pas tout ça, ou qu'on ne raconte pas tout ça, dès l'école primaire, hein, jusqu'au collège, au lycée et au-delà. En tout cas, je vous propose justement, par rapport à cette place de l'histoire, des sciences, qui a bien du mal à se faire, et en France notamment, d'écouter le témoignage de Dominique Pestre, c'était le 17 octobre 2013.
Quand on me demande de me définir, je me définis d'abord comme historien, À l'état spontané, je me sens historien. Alors, je m'occupe en particulier des sciences, c'est vrai. Mais j'entends dans le vocable historien des sciences quelque chose de plus limité que ce que je fais. Il reste quelque chose dans l'expression d'historien des sciences de celui qui est un spécialiste, au fond, du développement d'un certain type de savoir qui s'est fait dans certains contextes bien particuliers et qui s'intéresse principalement à ce savoir lui-même. Or, moi, je m'intéresse à ces savoirs, mais je m'intéresse tout autant aux pratiques matérielles, aux techniques, à l'instrumentation. Je m'intéresse tout autant à la politique qui va avec, sur les espaces sociaux dans lesquels les choses se passent. Et dans ce sens, j'ai tendance à me définir comme historien.
L'histoire des sciences, une solution, peut-être, d'après vous, Gilles Boeuf.
On revient toujours à la question de notre ami, à quoi ça sert ? Je pense que cette question n'a aucun sens de formulation. On me disait l'autre jour, on va sauver les espèces, mais alors on sauve que les belles, pas les moches, ni celles qui servent absolument à rien. Ça coûte cher, vous comprenez. Je prends l'exemple du rat taupe nu qui est affreusement moche sur nos critères à nous, qui vit dans des terriers au Kenya, et qui du jour au lendemain, en 2005, devient au firmament de la recherche scientifique, puisqu'on découvre que ce rongeur vit 50 ans et ne fait jamais de cancer.
Donc il devient intéressant.
Oui, parade des moches, il valait rien. Ouais. Du jour au lendemain, il vaut quelque chose. Ça n'a pas de sens. Hein, c'est le vrac qu'il faut garder avec nous, sans faire aucun choix a priori. Je raconte souvent l'histoire des prix Nobel de médecine acquis sur des modèles apparemment totalement insignifiants et qui ont révolutionné la recherche fondamentale. Donc nous, notre plaidoyer, avec tout le monde, c'est garder cette recherche fondamentale. Le pilotage par l'aval ne fonctionne pas dans ces conditions-là et faire de l'application, bien sûr, les technologies, en surveillant, bien sûr, l'usage que l'on fait de ces découvertes scientifiques.
Et je rappelle aussi, parce que vous le mentionnez dans votre livre, hein, Gilles Boeuf, c'est que du temps de Carl von Linné, hein, on est dénombré au milieu du XVIIIe siècle environ 12 000 espèces vivantes, hein, végétales et animales. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 2 millions recensés, mais on est bien loin de la réalité. Et c'est vrai qu'il y a tout ce regard jeté à la fois sur l'histoire de la vie, la Terre, hein, formée il y a 4,6 milliards d'années, et puis ce qu'on en fait aujourd'hui, et se dire que, bien évidemment, cette biodiversité, quelle qu'elle soit, on n'est pas là non plus pour faire des choix. Mais regardons un petit peu dans l'histoire aussi pour comprendre de quelle façon est-ce qu'on doit se projeter dans l'avenir. Et alors je vous propose d'écouter le témoignage aussi de l'astrophysicien Jean Oudouze, parce que sa réflexion était intéressante. C'est vrai qu'on a parlé depuis le début de l'émission de cette nécessité de former, enseigner, raisonner, diffuser les connaissances, mais encore faut-il peut-être aussi porter haut la pluridisciplinarité de tous, des enseignants et des scientifiques.
C'est vrai qu'un chercheur, s'il ne prend pas garde, il peut devenir totalement incompétent sur pratiquement tout et être très bon sur un misérable petit domaine. Et je crois qu'il y a un gros travail à faire actuellement. Enfin, là, par contre, je m'implique et je pense que je suis un petit peu, là, j'ai un petit peu mon mot à dire, sur le fait de rendre les chercheurs un peu plus éclectiques.
Pluridisciplinaires.
Enfin, au moins qu'ils sachent qu'il n'y a pas que leur discipline et que le reste, il faut qu'ils le sachent. Par exemple, c'est pas normal qu'un physicien ignore tout de la biologie ou qu'un biologiste ignore tout de la chimie ou des mathématiques. C'est nécessaire d'avoir une culture générale un peu meilleure que celle que les chercheurs ont actuellement.
France Culture, la marche des sciences.
Aurélie Luneau.
Pierre Léna, une réaction à ces propos de Jean Oudouze, c'était dans la marge des sciences du 25 novembre 2010.
Oui, que je partage tout à fait, que j'ai éprouvé moi-même dans mon propre métier. Mais je voudrais dire que nous avons, dans 2 mois, après ces vacances d'été, une réforme du collège qui a été très critiquée, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais qui est la loi, qui va donc s'appliquer et qu'il faut donc réussir. Et je suis parmi ceux qui, tout en ayant critiqué beaucoup de ces aspects, l'ont approuvé parce que je crois ces principes bons. Et un des principes, c'est de mettre en place au collège quelque chose qui casse un peu les silos disciplinaires, les cloisonnements des disciplines. Physique, chimie, sciences de la terre, sciences de la vie, technologie, hein, et puis mathématiques aussi. Et que l'initiative prise par la réforme, qui est de créer des enseignements interdisciplinaires, c'est-à-dire de globaliser certaines heures entre professeurs, pour que les élèves perçoivent cette porosité entre les champs scientifiques, qui est finalement ce qui les rend créateurs, hein, bien au-delà des cloisons qui les séparent Il faut que les élèves perçoivent ça, et ils ne le percevront pas si leurs professeurs ne le perçoivent pas. Alors, c'est pas facile pour les professeurs. Ils ont eu une formation que nous leur avons donnée, donc à nous la faute aussi, comme le disait Jean XII. Ils ont eu une formation qui les a eux-mêmes un peu emprisonnés dans ces silos. Il va falloir dépasser ça. Ça se fera pas en un an, peut-être en 10, mais je crois que c'est fondamental pour comprendre le monde d'aujourd'hui. On revient au début de cette émission. Il s'agit de comprendre que ces enfants, devenus adultes, comprennent le monde dans lequel ils vivent, comprennent le changement climatique, comprennent la biodiversité. Et ils ne comprendront que s'ils voient ces liens entre les champs scientifiques.
Donc d'où la mise en place aussi, je le rappelle, Pierre Léna, via La Main, la Patte et l'Académie des sciences, des maisons de sciences pour les professeurs. Il y en a 9, ou il y en a plus maintenant ?
Il y en a 9, Et nous cherchons justement à faire fréquenter de la science vivante, de la technique vivante aux professeurs, sans ces cloisons.
Gilles Boeuf.
Oui, c'est fondamental. Je pense qu'on souffre beaucoup en France, particulièrement de ces silos, parce que il faut expliquer à un jeune bon en mathématiques que s'il ne parle pas anglais, il ne communiquera pas avec son collègue chinois ou argentin. Et partout, tout à l'heure, on parlait du zéro, pour un physicien, zéro pour la température, c'est la température, effectivement, quand l'eau devient effectivement de liquide à glace. Donc, moins 3, moins 4, oui, on comprend ce que c'est, finalement. Par la physique, on peut comprendre ces chiffres négatifs qu'on évoquait. Expliquer aux enfants aussi que ces mathématiques, elles sont partout. Le vivant est organisé aussi, selon des principes mathématiques, ce qui est évident, puisque de toute façon, c'est la base de tout ce qu'on connaît pour la jeunesse de l'univers et de la nature. Et ça, on l'explique pas suffisamment. La physique et la chimie, pas que les sciences aussi, les langues aussi, bien sûr. La philosophie, l'histoire. Je trouve souvent que la philo, on devrait la faire en 5. Ils sont bien plus philosophes, en fait, à 11 ans qu'à 18, quand leurs hormones ont travaillé un petit peu trop. Et c'est vrai que ça, c'est très, très important. Alors, on doit changer. Aujourd'hui, on n'arrête pas de dire aux enfants, le climat change, il faut nous adapter. Et ce qu'il faut leur dire, c'est que pour s'adapter, et on en a impérativement besoin, il faut accepter de changer. Personne ne s'est jamais adapté sans changer. Ça veut dire que le corps enseignant et tout ce qu'on fait autour est fondamentalement impliqué dans ces questions particulières. Et pour revenir au rôle des filles, l'autre jour j'enseignais à la fac de médecine, j'avais 64 étudiants, j'avais 8 garçons. Et c'est vrai que c'est toujours... Alors, on explique des choses parce que les concours sont difficiles, elles réussissent mieux. Puis surtout après, on n'est pas là, nous enseignants, pour les désespérer. Donc on raconte des histoires qui sont difficiles, qui sont dures, mais finalement... Il faut se retrousser les manches, accepter de changer, pas refaire comme leurs parents ou leurs grands-parents, et puis leur donner des chances raisonnables, effectivement, de changer les systèmes. C'est très important. Et c'est notre rôle à nous, scientifiques et enseignants, de diffuser cela.
Et je rappelle que vous avez quand même aussi beaucoup participé à la mise en place, Gilles Boeuf, de cette science participative,
oui,
qui a cours au muséum. Et je renvoie les auditeurs sur le site du muséum où vous verrez, vous pouvez
beaucoup.
Effectivement vous enrichir beaucoup. Le mot de la fin, Stella Baruc, une petite minute, pas plus.
Eh bien, Aurélie, j'espère que vous me permettrez de consacrer ce mot de la fin à cette longue marche de 7 années qui vous a fait rencontrer beaucoup de monde et donc qui a fait apprécier à beaucoup de monde cette émission. Et je dois dire que je suis presque émue parce que j'étais là à la première et
exact,
me voici là
vrai.
À la dernière.
C'est vrai.
Je ne trouve pas de propriété particulière au nombre 316, si ce n'est d'avoir eu la chance d'avoir appris des choses et pour rester dans le climat stendhalien, une science sans bornes et aimable.
Merci voilà. Beaucoup Stella Baruc, merci Pierre Léna, merci Gilles Boeuf, j'étais ravie de vous réunir tous les trois et c'est vrai que nos discussions sont fructueuses. Merci aussi à Jean-Claude et Fabienne Amézène, sans oublier Philippe Lodenbach et à tous ceux qui sont présents derrière la vitre du studio. Allez, les livres, les informations, les liens sont à retrouver sur le site de l'émission franceculture.fr, rubrique La Marche des Sciences. Vous pouvez réécouter encore l'émission ou mieux la télécharger.
Il est important de rester sur la voie de ses rêves, même si le chemin est difficile.
Et c'est Jean-Louis Etienne qu'on vient d'écouter. Et oui, il est important de rester sur la voie de ses rêves, même si le chemin est difficile. Cette pensée, il l'a exprimée le 22 décembre 2011. Elle s'adresse à tous et résume bien toutes ces histoires que nous vous avons racontées ici même. Et elle symbolise aussi les parcours de vie des scientifiques comme nos trois invités aujourd'hui. Shake me up from the dreams, life is only worth when you give it away. When you're done, you've learned there is nothing that's greater, and there is nothing to waste more. 'Cause you grow and you grow, and with years you'll know there is only one thing in the end to show. You do it wrong again and again, till it's too late to stop, and then.
In the end, there is only love. C'est le choix d'Alexandra Malka et c'est chanté par Evert and the Two Dragons. Allez, la marche des sciences, c'est fini. Merci de votre fidélité, de vos réactions, de votre écoute toujours attentive. 7 ans d'aventure au cœur de l'histoire des sciences. 3 septembre 2009, 30 juin 2016, 316e numéro. Merci à tous ceux qui ont fait la marche des sciences jour après jour. Ma complice Catherine Donnet à mes côtés depuis le début, les reporters fidèles Céline Duchesnay, Catherine Decopé, Anaï Morales, la petite souris des archives, Alexandra Malka qui a réalisé l'émission ces deux dernières années avec une énergie dynamisante et toutes celles qui l'ont précédée et ont porté haut le projet. Allez, dans l'ordre, allez, Brigitte Alléo, Pascal Raillé, Julie Béressy, Anne de Pelchin, sans oublier les remplaçants qui ont fait partie de l'aventure eux aussi, comme Gilles Davidas par exemple, et d'autres que je n'oublie pas. À la technique, Benoît Latil et pas très loin, Jean-Frédéric, aujourd'hui donc aux manettes et tous les techniciens, bien sûr, j'ai une pensée pour eux, indispensables, virtuoses des manettes et qui ne se privaient pas d'ailleurs de réagir sur les sujets abordés, parfois dans le casque. C'est aussi ça, la complicité de la radio. Merci aussi aux documentalistes maison, à ceux de l'INA, à nos partenaires, l'Académie des sciences, Marie-Laure Moinet, le Collège de France, le Muséum Univers-Science, pour ne citer que Suzanne Macky et Marie-Neige Cordonnier de Pour la Science. Et puis je n'oublie pas, bien sûr, les comédiens de l'équipe comme Philippe Lodenbach, Emmanuel Lemire, Régis Royer, Jean-Christophe Lebert ou encore Juliette Roudet. Et puis, bien sûr, une pensée pour tous les invités, scientifiques, chercheurs, historiens, venus dans l'émission pour nous faire partager leur savoir et leurs découvertes et qui ne manquaient pas d'être aussi des éveilleurs de conscience. Et on ne se quitte pas totalement puisque je vous retrouverai à la rentrée le dimanche de 16h à 17h pour une toute nouvelle émission consacrée aux enjeux au sens large de l'environnement. À suivre donc.